RFI 6h30 à Paris et Niamey, c'est 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Julien Coquel-Rohem, bonjour à tous.
Les crimes crapuleux ne resteront pas impunis.
Réaction des autorités nigériennes après l'attaque djihadiste de vendredi dans une mosquée de la région de Tillaberi. 44 civils tués dans ce massacre d'une grande cruauté, dit-on à Niamey. Quand la situation sécuritaire a des conséquences sur la vie quotidienne dans l'est de la République démocratique du Congo, les organisateurs du festival Amani de Goma s'inquiètent du sort de l'événement habituellement prévu en fin d'année. Ça enlève le piment dans la sauce. Réaction diverse après la disqualification de Jean-Rémi Yama de la course à la présidentielle gabonaise. Certains habitants évoquent un semblant de démocratie quand d'autres se réjouissent du déroulement du processus électoral. Nous sommes à Libreville. Lui craint également de voir sa candidature rejetée. L'opposant camerounais Maurice Kamto se dit une nouvelle fois victime d'un complot politique. Enfin, au Bénin, le parti Les Démocrates porte plainte contre des élus locaux et des fonctionnaires de police. Ses partisans disent avoir subi persécutions et ciblages lors de récents rassemblements. Les autorités nigériennes ont annoncé ce vendredi la mort de 44 civils dans une attaque imputée à un groupe armé dans la région de Tillaberi. Cela s'est passé entre Tera et le fleuve Niger à environ 200 km de Niamey. Potentiellement une opération de représailles au moment de la prière de l'après-midi. Les auteurs ont encerclé la mosquée du village de Fambita avant d'ouvrir le feu. Des attaques désormais quasi quotidiennes dans cette zone dite des trois frontières où les forces armées nigériennes multiplient les opérations contre l'EIS. Guillaume Thibault.
Dans le communiqué diffusé à la télévision nationale, les autorités militaires parlent d'un massacre d'une rare cruauté mené par l'État islamique au Sahel, puis indiquent ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis, les auteurs seront traqués. Choqué, Amadou Haruna Maiga, le coordinateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale, a rendu hommage aux victimes ce samedi lors d'un point presse.
Je présente mes condoléances les plus émues aux victimes tombées sous les balles des barbares. Mais ceux qui sont en train de perpétrer ces attaques-là, eux pour eux, Dieu n'existe même pas.
La zone de Fambita, village de la commune de Kokoro, est en partie sous le contrôle d'éléments de l'État islamique au Sahel qui mettent en place des barrages routiers pour prélever des taxes. Il y a 8 jours, dans le cadre de l'opération NIA, le Courage, l'armée a lancé 2 importantes missions dans la région contre ce groupe armé et annoncé via un communiqué avoir neutralisé 90 djihadistes, 9 soldats. Ont été tués durant ces combats. Amadou Haruna Maiga appelle toutes les forces vives du Niger à lutter contre les groupes armés.
La guerre là, ça concerne tout le monde. Chacun a ce qu'il doit faire pour soulager la souffrance des populations.
Suite à l'attaque de la mosquée de Fambita, les autorités militaires du Niger ont décrété 3 jours de deuil national.
Et Guillaume Thibault, le M23 annonce son retrait de Walikale Centre dans la province du Nord Kivu quelques jours seulement après avoir mis la main sur cette localité de l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé soutenu par le Rwanda dit vouloir favoriser un climat propice au dialogue. Certaines sources au sein des FARDC disent en revanche ne pas croire cette annonce et estiment que les rebelles tentent peut-être de gagner du temps en vue d'une tentative de progression plus large vers Kisangani, notamment à environ 400 km de là. Pendant ce temps-là, à Kinshasa, par la voix de Thérèse Kaoyi Kwamba et sa ministre des Affaires étrangères, Kinshasa a donc justifié son choix de discussion directe avec le M23, expliquant qu'il était opportun d'engager ce dialogue s'il menait à un cessez-le-feu rapide. Cette situation dans l'est de la RDC aux conséquences multiples, on vous parle régulièrement de la situation humanitaire, de la vie quotidienne et ce matin du domaine de la culture forcément touché, habituellement tenu en fin d'année. Et les organisateurs du festival Amani craignent d'ores et déjà pour son avenir. Son directeur, Guillaume Bissimois, était à Marseille ce week-end pour le label Musique XP. C'est là-bas qu'Olivier Roger l'a rencontré.
En 10 ans d'existence, le festival Amani a relevé de nombreux défis. En 2021, l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma avait entraîné un report de 10 mois. L'an dernier, la mairie avait failli gâcher la fête en interdisant la tenue du festival avant de faire machine arrière. Cette année, avec la guerre, Amani est pour l'instant suspendu. Guillaume Bissimois, directeur du festival.
S'il y a une stabilité au niveau du pays, il est important de remettre la culture au centre de tout et on regarde de près comment les choses évoluent. Mais entre-temps, les équipes ont réfléchi pour que tout de suite, s'il faut rebondir sur un événement assez important et qu'on puisse les mettre en place, quoi.
Tout dépendra donc de la situation sécuritaire à Goma, mais une autre option est sur la table, décentraliser le festival dans une autre ville du pays.
Est-ce que c'est une façon de dire que la culture doit survivre? Est-ce que ne pas l'organiser, ça serait aussi un message fort en disant que les contextes sont difficiles? Toutes sont des questions assez profondes, des réflexions sur lesquelles il faudrait qu'on s'y mette.
Pour l'heure, Guillaume Bissimoy n'a pas la réponse et il ne prendra aucune décision seul. Les partenaires culturels et institutionnels du festival, ainsi que les artistes, auront, dit-il, leur mot à dire. Olivier Roger, Marseille, RFI.
RFI, 6h36 à Paris, détour par la France. Dans ce journal où se poursuit tout au long du week-end la grande opération de collecte de fonds et de mobilisation pour la lutte contre le VIH, le SIDAction, une occasion également pour les professionnels de sensibiliser, notamment les jeunes, à l'importance du dépistage. Témoignage ce dimanche de Geneviève Gripper, cette Ivoirienne de 41 ans a découvert qu'elle était séropositive il y a 10 ans maintenant.
Quand j'ai récupéré les résultats, ça m'a fait un choc. J'ai fondu en larmes. Ça m'a pris 2 ans pour pouvoir l'accepter. En fait, pourquoi je pleurais autant? Parce que le VIH, il est considéré comme si c'était ta vie qui avait basculé. Puis j'avais aucune information sur le VIH. Je ne savais pas que la médecine avait évolué. On pouvait se marier, on pouvait avoir des enfants bien portants. Du coup, pour moi, c'est mon monde qui s'effondrait. Je me suis tout de suite fait prendre en charge. J'ai été mise sur traitement trithérapie direct. Hein. J'ai été suivie aussi psychologiquement. Les médecins m'ont beaucoup rassurée. Au bout de 3 mois de traitement, j'ai eu une charge virale indétectable. Quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le VIH. Puis j'ai vu que tout était possible. Je pouvais poursuivre mes rêves, je pouvais avoir des enfants. Et en 2017, j'ai accueilli mon premier fils qui est très bien portant. Il n'est pas infecté. J'ai continué, j'ai croisé mon mari, on s'est marié, on a eu un deuxième enfant. Donc voilà, aujourd'hui physiquement, je vais super bien. Mentalement, je vais super bien. Donc il faut très bien prendre les médicaments tous les jours. Et puis on a une vie normale en fait.
Geneviève Gripper au micro de Valérie Cohen. Et sachez que selon l'ONU SIDA, en 2023, 1 300 000 personnes ont été infectées par le VIH. Un quart des personnes vivant avec le VIH n'ont pas accès à un traitement et 630 000 personnes sont décédées de maladies liées au SIDA en 2023. Au Gabon, on connaît depuis la fin de semaine les 8 candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 12 avril prochain. Mais alors, que pensent les électeurs de la composition de cette liste, mais aussi de l'absence de l'ancien leader syndicaliste Jean-Rémi Yama? Yves-Laurent Goma a recueilli les réactions dans les rues de Libreville.
Dans un troquet du 5e arrondissement, Gauthier Achille Moussavou boit la bière avec ses frères. Il est marqué par l'émergence de nouvelles figures sur la liste des candidats.
Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il y a de nouveaux visages. Ces visages vont certainement changer la donne, contrairement aux anciens visages qui sont fatigués, qui n'ont rien prouvé durant 40 ans.
Beaucoup de Libreville-lois digèrent mal l'élimination du syndicaliste Jean-Rémi Yama, figure de proue de la société civile.
Nous regrettons pourquoi ils ont enlevé Jean-Rémi Yama. Ça enlève le piment dans la sauce. Sinon, avec lui, ça devait être plus piquant et plus chaud.
On devait laisser Jean-Rémi Yama combattre le système de rigueur.
Dans un bar en plein air du 3e arrondissement, ces Gabonais préférant l'anonymat mettent en cause la sincérité du processus électoral.
Un semblant de démocratie et une foutue élection.
Le ministère de l'Intérieur organise les élections et ce sont les gouverneurs qui sont les présidents de commission, ce qui n'est pas normal.
Christian Singa n'est pas de cet avis.
Et pour moi, c'est une très bonne élection qui va bien se passer. Nous avons voté le référendum et ça a été favorable. Donc pour moi, je me rends sûr que c'est des élections qui vont très bien se passer.
À moins d'un mois du scrutin, le climat politique est apaisé. Très peu de Gabonais redoutent des violences post-électorales comme les années antérieures. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Et j'ajoute que la campagne électorale doit officiellement démarrer samedi prochain, le 29 mars. Présidentielle également en vue au Cameroun. Le vote est prévu pour la fin d'année, mais suscite déjà plusieurs interrogations. Parmi elles, Une candidature de Maurice Kamto est-elle légitime? Le leader du MRC a maintenu qu'elle l'était cette semaine. Selon lui, il est victime d'un complot politique visant à le disqualifier. Dans le même temps, il appelle ses partisans à se tenir prêts pour faire face, dit-il, ce qui n'a pas manqué de faire réagir dans les sphères politiques. Réaction notamment de Jean de Dieu Momo, allié politique du RDPC au pouvoir. La correspondance à Yaoundé de Polycarpe Samba.
Le MRC ne laissera pas le RDPC exclure son candidat de la course à la prochaine élection présidentielle, écrit en substance Maurice Kamto dans cette déclaration, avant sur un ton menaçant de dire que ceux qui ont pris cette décision illégale y renoncent, car avance-t-il, cela ne se fera pas sans conséquences graves. Pour le candidat investi par le MRC, l'homme derrière le complot en préparation n'est nul autre que le ministre de l'administration territoriale qui l'accuse de s'être arrogé le droit de décider de qui sera candidat à l'élection présidentielle ou non. La réponse à cette sortie de Maurice Kamto est venue de là où on s'attendait le moins, sous la plume notamment de Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Ce dernier qui occupe au gouvernement le poste qu'occupait avant lui Maurice Kamto et dont le parti le PADEC fait partie de la majorité présidentielle, s'est employé à démonter tous les arguments de droit convoqués par Maurice Kamto en soutien à sa candidature. Pour ce dernier, seules deux hypothèses s'offrent à Maurice Kamto, soit comme candidat indépendant ou alors qu'il soit investi par un tout autre parti que le MRC, disposant ce parti-là des élus. Tout autre scénario serait d'après lui la préparation d'une insurrection populaire pour prendre le pouvoir par la rue, conclut-il. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Politique encore cette fois au Bénin pour refermer ce journal où les démocrates, principal parti d'opposition, portent plainte contre des fonctionnaires de police et des élus locaux, cela pour atteinte à la liberté et aux droits civiques. Les démocrates, ce parti qui dit avoir été confronté à plusieurs refus pour la tenue de rassemblements, mais aussi d'avoir été dispersé lors de rassemblements dans plusieurs villes du pays. À Cotonou, la correspondance de Jean-Luc Aplogan.
Il s'agit de plaintes en citation directe notifiées aux auteurs supposés de l'infraction. Selon l'avocat, il y a déjà un calendrier pour les audiences, maître Renaud Agbodjo.
Les plaintes ont été déjà délaissées depuis une semaine au moins. Les audiences sont prévues pour le 26 et le 28 mars de ce mois.
Les plaintes sont déposées à Natitengu, Djougou, Kandi, Abomey-Calavi, Porto Novo et Kobe. Le parti Les Démocrates affirme avoir été empêché dans ces villes de tenir des réunions. Les leaders accusent les élus locaux et la police de les avoir dispersés. Ce samedi, le parti fait encore cas d'un nouvel épisode d'interdiction de rassemblement à Dassa. Il est demandé à tous les partis d'éviter les réunions en lieu ouvert, rappelle le porte-parole du gouvernement. Il poursuit. Puis, le week-end dernier, ils ont respecté la prescription et ont pu tenir leur réunion à Matéri. Puis il accuse, là où il y a eu incident, ils ont obtenu l'accord pour une réunion dans un domicile, puis ont voulu la déporter dans la rue. La police les a dispersés sans incident, a-t-il précisé. Plusieurs responsables des démocrates estiment que c'est une persécution, un ciblage. Faux, répond un membre de l'UPR, soutien de Patrice Talon, qui rapporte que son parti a essuyé récemment une interdiction de rassemblement à Abomey-Calavi. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et c'est à Cotonou que se referme ce journal. À vous, Julien Coquelroem.
Merci, Nemo Ampis. À tout